Radio Air.
Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction.
VIP, aujourd'hui, nous avons la joie, le privilège de recevoir Ancila Vitelli. Bonjour Ancila.
Bonjour.
Alors, vous êtes une jeune mère de famille.
Oui.
Vous avez un petit garçon, c'est juste?
Oui, c'est juste, oui.
Et vous êtes aussi, de métier, assistante sociale.
Tout à fait, oui.
Et vous habitez en Suisse romande.
Voilà, oui.
La Suisse, c'est votre pays d'adoption. Vous y avez passé la quasi-totalité de votre vie, sauf les toutes premières années de votre vie. Parce que vous êtes née dans un pays superbe, qu'on appelle aussi le pays aux mille collines, et c'est le Rwanda. Est-ce que vous voulez bien retracer pour nous la raison qui fait que vous avez grandi en Suisse, mais que vous êtes née au Rwanda?
Oui, donc je suis née dans une famille avec une fratrie de... On était quatre frères et sœurs, avec mes parents qui étaient agriculteurs dans un village au Rwanda, dans les collines. Et puis, comme beaucoup de monde le sait, en 1994, il y a eu le génocide perpétué contre les Tutsis du Rwanda. Et donc, ma famille et moi étions nous-mêmes Tutsis. On a dû fuir justement les massacres. Mais mes parents, de ce massacre, en sont décédés. Et par la suite, on a été également dispersés, mes frères et sœurs et moi. Et par la suite, j'ai été moi-même blessée au front et aux yeux. Et ensuite, j'ai dû être acheminée à l'hôpital Roi Faisal, qui s'appelle maintenant King Faisal, à Kigali. Et pendant toute cette période, c'est une jeune femme et sa famille Hutu qui se sont occupées de moi. Cette jeune femme s'appelle Jeanne. Et donc, c'est elle qui m'a amenée jusqu'à cet hôpital. Et une fois à cet hôpital, mon pronostic vital était engagé. Et c'est là qu'il y avait le fondateur de l'association Terre des Hommes, Edmond Kayser, qui est venu et qui m'a vue du coup dans un état de santé critique et qui a décidé de m'acheminer jusqu'en Suisse pour que je puisse me faire soigner.
Et c'est vrai qu'il y a votre vie, là, votre destin qui bascule quelque part. Hein. C'est ça qui a complètement réorienté votre existence et qui a fait que vous arriviez en Suisse?
Oui, tout à fait. Parce que ben, sans ça, je serais restée au Rwanda et voilà, je serais peut-être gravement handicapée ou bien peut-être même décédée. Donc ça a changé toute ma vie, effectivement.
C'est assez bouleversant que ce soit une jeune fille Hutu qui prenne soin d'un bébé ou d'une toute petite fille Tutsi.
Oui.
C'est assez fou, cette histoire, quand même.
Oui, c'est vrai. Ben, ça prouve que l'être humain est vraiment plein de surprises parce que, voilà, en fin de compte, l'histoire rwandaise est assez compliquée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait de nombreux Hutus qui étaient justement contre ce qui était en train de se passer, dont la famille Ajane qui nous a protégés, ma sœur et moi.
Et il y en a d'ailleurs qui ont laissé leur vie, hein, d'avoir voulu protéger des Tutsis.
Tout à fait, oui.
Pour faire connaissance un petit peu avec la musique rwandaise, Ancila, on va écouter une chanson que vous proposez de découvrir. Est-ce que vous voulez présenter cet artiste?
Oui, avec plaisir. Donc, c'est une artiste rwandaise qui se prénomme Teta Diane. Et c'est une artiste que j'aime beaucoup parce que voilà, il y a à la fois ce côté traditionnel tout en mélangeant avec le rythme un peu moderne. Voilà.
Donc, quelques notes qui nous emmènent tout de suite au Rwanda.
Nicaye ku ijuru rya kamunyi ndatera nk'ikiriza nk'utagira undi oya sindirimba ndahamagara nka kanyamanza kamuzimuzi yemura kahirewe kanaka mama baragushutse cya gifaransa si ubumenyi akurya inyanja hahishaga ko ni karagiye inka za so na sogokuru yemura kahirewe ngo gashinge nyine ngo gashinga cumi yemura kahirewe ye kaseruzi
Après ces quelques notes qui nous faisaient découvrir un petit peu du Rwanda musicalement, de retour dans VIP aujourd'hui avec Ancila Vitelli, notre invitée, rescapée du génocide rwandais qui a été soignée et puis adoptée en Suisse. C'est vrai que vous en avez subi hein, des opérations, Ancila, pour récupérer de cette blessure au front et à l'œil qui vous a handicapée.
Oui, donc ça n'a pas été évident. Donc là, cette période, quand j'étais petite, en fait, je ne m'en souviens pas vraiment parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais environ un an et demi. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est une chance pour moi. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de cette période. Mais une personne qui a pu m'en parler et puis avec qui j'ai pu comprendre, c'est à l'époque, c'était donc ma maman d'accueil qui, par la suite, est devenue ma maman adoptive. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soins prenant du temps, il était important que je sois dans un lieu qui soit à côté de l'hôpital. Et c'est au départ, j'aurais dû aller à la maison Massonger au Valais. Mais comme c'était trop loin de l'hôpital dans lequel je me faisais opérer, on a pu trouver donc, une dame qui faisait partie de l'association qui m'a permis de venir également, a demandé à sa collègue si elle avait la possibilité d'accueillir une petite fille le temps de ses soins en Suisse. Et puis, sa collègue, avec un grand cœur, avait tout à fait l'envie de m'accueillir. Du coup, j'ai pu, entre les hôpitaux, j'ai pu être accueillie par cette famille d'accueil. Et là, tout de suite, un lien fort s'est créé entre nous, ce qui fait que j'étais très vite attachée. Je pense que pour une petite fille, ça a permis justement que les soins soient moins rudes que plutôt d'être toute seule. Et puis, voilà. Donc, à ce moment-là, ma vie était rythmée entre les allers-retours à l'hôpital et les soins à la maison par ma famille d'accueil. Voilà, j'étais au sein de cette famille. Donc, elle était avec son mari, sa fille. Et elle m'a toujours dit que dès qu'elle m'a vue, enfin, elle savait que ça serait difficile de me laisser repartir. Et du coup, très vite, les démarches pour l'adoption ont été enclenchées.
Donc, accueillie par cette famille qui devient ensuite votre famille adoptive et qui compte énormément encore à ce jour. Hein, c'est des liens forts, des liens indéfectibles.
Voilà, oui, c'est ma famille, du coup, oui.
Et à quel moment vous avez pris conscience qu'il y avait quelque part peut-être une autre famille qui vous restait au Rwanda? Est-ce que votre famille d'accueil vous a parlé du Rwanda? Comment ça s'est tissé un petit peu ces liens entre vos deux pays, si on peut dire les choses comme ça?
Oui, alors en fait, depuis toute petite, ma maman, elle m'a toujours parlé de ma famille au Rwanda. Elle m'a toujours dit voilà, que mon papa et ma maman, qui n'étaient plus là, veillaient sur moi. Mes deux parents m'ont toujours expliqué que j'avais une grande sœur au Rwanda, parce qu'on savait uniquement que j'avais ma grande sœur Restuta. Du coup, ça, j'ai grandi en sachant cela. Donc, voilà, comme tout enfant, j'ai grandi de manière insouciante, en faisant ma petite vie d'enfant. Et c'est plutôt vers l'adolescence où là, j'ai voulu vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans ce pays, d'où je venais, comment étaient mes parents, enfin, où j'avais vraiment des questions fondamentales. Et donc, tout d'abord, j'ai eu l'envie de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays, parce que je ne savais pas réellement qu'est-ce que c'était. Enfin, je comprenais juste que c'était une guerre, mais pourquoi, comment, enfin. Et puis là, c'est vrai que pour moi, c'était un choc quand même de comprendre les réalités de ce qui s'était passé. Ensuite, voilà, heureusement, avec ma maman, j'ai pu pas mal parler. Du coup, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, c'est surtout vers 17 ans, comme ça, que j'ai vraiment eu l'envie très forte de retrouver ma sœur. Et du coup, je savais à ce moment-là que si je retournais au Rwanda, c'était pour la retrouver. J'avais pas dans l'idée de retourner juste pour aller voir le pays. Donc, voilà, c'est en grandissant, c'est en apprenant à me connaître que du coup, j'ai pris le courage de contacter une association rwandaise. Et heureusement pour moi, donc, le monsieur qui faisait partie de cette association allait aller au Rwanda dans les mois qui allaient suivre. Et donc, c'est là qu'en février 2014, il m'a écrit un message en me disant « Je viens à l'instant de quitter ta sœur Restuta ». Elle a beaucoup pleuré. Elle va montrer ta photo à ton frère et Paul et à ta sœur Angélique. Et du coup, là, c'est vrai que c'était une énorme vague d'émotions. Je pense la plus grande de toute ma vie. Et voilà, c'est comme ça que les deux pays ont commencé à se rejoindre.
C'est leur contraire, mais je n'ai pas écouté. On me dit, n'en fais pas qu'à ta tête. Je ne vais pas me laisser faire, je ne veux pas les écouter. Je veux que l'on m'entende. Moi je vis comme ça me chante. Retiens le temps si tout s'arrête. Fais-moi tourner la tête, vivante jusqu'au bout. Au fond, on veut tous exister. Je n'ai un patient, je vais pas hésiter. Souvent, la vie te fait méditer. Y'a des choses qu'on peut pas éviter. Trop d'ambition pour m'arrêter. Y'a pour mes filles que je peux tout plaquer. Je veux que l'on m'entende. Moi, je vis comme ça me chante.
note jusqu'au bout des doigts des paroles chantées par Amel Bent et Jiménez. Vivante jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout de son sourire magnifique, elle est notre invitée VIP, Ancila Vitelli. Alors Ancila, vous nous disiez tout à l'heure qu'en 2014, vous êtes retournée pour la première fois au Rwanda pour y rencontrer votre famille. Une sorte de nouvelle naissance, une naissance à votre pays d'origine, et vous retrouvez une partie de votre famille alors que vous pensiez peut-être que c'était impensable.
Voilà, oui.
Quel souvenir vous gardez de ces retrouvailles, de ce moment de retrouvailles?
Je garde des souvenirs magiques, parce que c'était vraiment, vraiment beau, dans le sens où de savoir que des gens m'attendait dans un autre pays que je ne connaissais pas, mais qui était à la fois le mien. Donc tout d'abord, ça s'est fait donc à l'aéroport. Je les ai retrouvés à l'aéroport, ils étaient venus me chercher. Et là, c'était la grande surprise de voir mes trois frères et sœurs qui m'ont accueilli, les voir pour de vrai, voir leur visage, à qui je ressemble, comment est-ce qu'on allait faire connaissance. Enfin, c'était beaucoup d'émotions.
Et puis en plus, il y a la question de la langue, hein, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas encore appris le Kinyarwanda à ce moment-là.
Non, j'avais juste téléchargé une petite application, mais avec les mots d'usage, donc du coup, il y avait au moins ça. Mais on arrivait quand même à se comprendre. Bon, il y avait des amis aussi qui pouvaient traduire. Et puis...
Et puis les regards parlent
voilà,
aussi. Hein.
Exactement, oui. On avait tous tellement d'émotions que la parole... Voilà, c'était pas un obstacle.
Donc ça, c'était en 2014 et vous êtes retournée plusieurs fois au Rwanda.
Oui.
Les liens, est-ce que les liens se fortifient encore plus à chaque fois, à chaque fois que vous vous voyez?
Oui, il y a des liens, surtout avec ma sœur Restuta qui a que 2 ans de plus que moi. Voilà, ce qui était drôle, c'était qu'en fait, on grandissait en même temps. Parce que là, quand j'ai été en 2014, j'étais donc jeune adulte, j'avais 20 tout juste 21 ans. Et puis, on grandissait ensemble dans le sens où les deux, on était aux études en même temps. Les deux, on faisait... on avait nos amis de jeunes adultes, nos expériences amoureuses. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'était assez drôle de vivre tout ça ensemble. Et puis, d'aller comme ça assez souvent, ça m'a permis de mieux les connaître, de mieux comprendre d'où je venais, de mieux... aussi un peu apprendre sur mes parents, qui ils étaient. C'est vrai que ma sœur Angélique avait beaucoup de plaisir, elle a toujours beaucoup de plaisir à me parler d'eux. Donc c'est vraiment des beaux moments, oui.
Quel lien vous avez gardé avec Jeanne aussi, cette jeune fille qui vous a sauvé la vie?
Alors avec Jeanne, c'est un lien très fort, parce que dès la première fois où j'ai été... J'étais encore, parce qu'elle s'était occupée de moi pendant plus de 6 mois. Et j'étais vraiment devenue son petit bébé, enfin son bébé à protéger. Et là, quand je l'ai retrouvée, c'était comme si ça n'avait pas tellement changé. Dans le sens où elle prenait toujours autant soin de moi. Enfin, avec elle, j'ai beaucoup de facilité à communiquer, étonnamment. Enfin, même avec les gestes. Tout de suite, on a eu beaucoup de facilité à communiquer. Quand je suis là-bas, je lui parle beaucoup. Enfin, c'est un lien très fort, oui.
Des liens forts, effectivement, qui vous unissent avec Jeanne, la femme qui vous a sauvé la vie quand vous étiez toute petite, Ancila. Alors, on vous retrouve à ce micro le temps d'écouter « Déploie tes ailes », une chanson aux accents de Mélopé, écrite et interprétée par l'artiste suisse Lilou. Thank you.
celle qu'elle te porte et t'emmène. Déploie tes ailes ou d'autres mots sur ce hasard. Déploie tes ailes, déploie tes ailes.
Ancilla Vitelli, vous avez retracé votre histoire dans un livre qui s'intitule « Ancilla, la jeune fille qui souriait aux étoiles », avec une référence aux étoiles, au ciel, on peut même mettre un C majuscule. Il y a eu dans votre parcours des sortes de petits miracles qui ont fait que vous avez pu rester en vie quand même. Est-ce que vous avez été consciente d'une sorte de présence divine ?
Oui, enfin, je ressens que... Vraiment, enfin, je suis pas toute seule, enfin que nous sommes pas tout seuls. Et ça m'a beaucoup aidée à avancer. Quand voilà, quand des fois ça allait pas, quand c'était des fois compliqué, de me dire non, jusque là on m'a toujours protégée, je peux aller de l'avant. Enfin voilà, on veille sur moi. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis des fois quand surtout, ce que je me dis, c'est que aussi les personnes qui nous quittent, elles restent, elles sont là, quoi qu'il arrive. Oui.
D'être accompagnée. Et vous utilisez ce mot très fort, hein, on n'est pas seul.
Mm-hmm. Mm. Oui.
Même si, quelque part dans votre parcours, voilà, il y a des moments que vous avez dû traverser effectivement seul, mais il y a toujours eu quelqu'un, hein, pour faire un peu le relais.
Voilà, enfin, ouais. Dans le sens où je me dis, quand il y a tant de belles rencontres qui se font à des moments bien précis, c'est pas un hasard. Enfin, c'est que vraiment, enfin, on nous guide. Enfin, là, quand je repense à mon histoire qui est particulière, je sens que j'ai été tout du long protégée d'une certaine manière.
Vous relatez ça aussi dans votre livre. C'est au Rwanda que vous avez été baptisée. En fait, quel sens ça a eu pour vous à ce moment-là ?
Pour moi, ça avait un sens surtout de... comme pour m'ancrer un peu plus au Rwanda aussi. Ça avait un sens parce qu'aussi ma famille là-bas ils sont catholiques. Et puis, oui, ça avait un sens. C'est comme pour dire aussi la boucle était bouclée. Du coup, c'était un moment ben fort. Un moment de partage. Ouais, c'est compliqué à résumer comme ça.
Et c'était la fête aussi avec la famille. Hein.
Oui, mmh. Oui, oui, c'était très chouette, oui, oui.
Au fil de votre parcours, est-ce que vous avez éprouvé à un moment donné le besoin de pardonner aux personnes qui avaient massacré vos parents ? Ou pas du tout ?
Non, c'était, en fait, c'était c'est trop vrai distant, que des fois, ouais. c'est une question que moi-même je me suis posée. Et en fait, non. Non, parce que déjà, j'étais vraiment trop petite. Enfin, j'ai vraiment aucun souvenir. Et aussi parce que, après avoir quand même étudié un peu l'histoire du Rwanda, enfin, essayé de comprendre, beaucoup parlé avec mon mari qui est lui-même rwandais, ce que je comprends, c'est que c'était surtout une machination. Donc, je pense que la chance que j'ai, c'est justement que j'ai pas de souvenir. Donc, j'ai pas un visage. Il n'y a pas une personne qui me vient spécialement en tête. Pour moi, c'est une chose immense qui s'est passée dans ce pays, qui a pris tous ces gens et qui, voilà, qui a fait l'histoire qui est aujourd'hui. Mais je n'ai pas de notion de me dire je dois pardonner à quelqu'un ou de colère spécifique envers une telle ou une telle personne ou un tel groupe. C'est vraiment... Moi, j'avais plutôt de l'incompréhension. Et le fait, en fait, de retourner au Rwanda, de beaucoup pouvoir parler avec mes proches, ça m'a aidé justement à mieux comprendre, même si on ne comprendra jamais. C'est quelque chose de tellement inhumain qu'il n'y a pas d'explication, mais pouvoir en parler, ça m'a aidé.
Vous l'avez dit, Ancilla, vous êtes mariée avec quelqu'un qui est aussi originaire du Rwanda. Et vous avez un petit garçon. Vous allez visiter le Rwanda ensemble ?
Oui, oui, oui. Donc là, on a pour projet d'aller l'année prochaine. Parce que là, nos familles, enfin sa famille à lui, puis la mienne au Rwanda, n'a pas encore rencontré nos petits garçons.
Donc ça, c'est quelque part vraiment le Rwanda actuellement. le passé est derrière. On regarde vers l'avant, tout ce qui est beau et tout ce qui nous attend devant.
Voilà, oui. Je me dis, du moment, ce qui est très important, c'est de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et c'est vrai que tout mon parcours de vie m'a permis justement de comprendre d'où je venais. Et là, maintenant, je me sens légère pour justement regarder de l'avant.
Eh bien, en tout cas, on vous souhaite une bonne suite de parcours.
Merci Ancilla, beaucoup.
Et on vous remercie infiniment aussi d'être venue partager ce petit moment de vie avec nous au micro.
Merci.
Et on va se dire au revoir sur cette chanson interprétée par Murray Head en français. Rien n'est écrit, tout est encore possible.
Rien n'est écrit, tout est encore possible.
Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.
Sur radio-r.ch.